Les souris ne mordent pas, l'émission qui vous parle des nouvelles technologies en CFM.
Bonjour et bienvenue pour une nouvelle semaine remplie d'actualités sur les nouvelles technologies. Et en fin d'émission, donc, on recevra Monique Herman-Bultel, candidate du Parti Socialiste à l'élection législative sur la première circonscription de l'Aveyron. Sacré titre quand même.
Ouais.
On fait une petite actu cette semaine de la moitié de l'émission. Hein,
voilà.
Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire.
Donc grosse actu.
Voilà, donc on se retrouve dans un instant pour cette actu très très chère. À tout de suite en CFM.
Ouais, et on va lancer de la musique.
Voilà. C'est mon beau-père qui fait de la musique, donc.
Et voilà, c'est des amis.
Voilà, des amis. Justement, c'est des reprises qu'il fait. Là, c'est Me and My Uncle de John Phillips. Et donc là, c'est une reprise. On écoute tout de suite en CFM.
On fait des passes droits sans me le dire, quoi.
Bah voilà. Maintenant, tu le sais.
Voilà, il y en aura une deuxième.
T'es prévenu. À tout de suite en CFM. Les souris ne mordent pas.
Qui vous parle des nouvelles technologies en CFM.
Alors on va commencer par un petit clin d'œil, si vous voulez bien, au patron de Gaumont, qui, pour justifier Adopi, en fait, a déclaré qu'aucun film français n'avait été téléchargé dans les 7 derniers mois de 2011. C'est quand même une bonne nouvelle de savoir que le téléchargement a complètement stoppé.
Chez lui, peut-être. Chez moi, personne n'a rien téléchargé.
Dans son immeuble, je pense, peut-être.
Ouais.
Par contre, la société qu'il dirige pour récupérer les adresses IP et les envoyer à Adopi a quand même récupéré plusieurs millions de signalements. Parmi ces plusieurs millions de signalements, il n'y a que des films américains, apparemment. Petite actu sur les législatives, puisque c'est un peu la thématique de l'émission. Donc, on va parler des élections législatives des députés qui représentent les Français de l'étranger.
Une nouveauté, ça, d'ailleurs.
Voilà, donc cette année, pour élire ces députés des Français de l'étranger, ils ont instauré le vote électronique, le célèbre vote électronique qu'on doit nous mettre en place depuis des lustres. Cette élection qui représente à peu près 700 000 électeurs, est un peu un fiasco, quand même.
Ah bon ?
Donc c'est vrai que le Parti Pirate a ouvert sur son site internet une page en fait pour référencer les problèmes. Moi j'ai été voir que le premier soir, j'y suis pas retourné depuis, mais il y avait déjà une cinquantaine de plaintes.
Le signalement.
Ah d'accord. Ouais.
Donc voilà, ça peut aller simplement du Java qui se télécharge pas. Hein. Voilà ce que c'est d'utiliser des logiciels propriétaires aussi.
Ouais, alors Java, oui, là c'est un petit plugin en fait qui se met un petit add-on sur le navigateur qui permet d'accéder à un espace sécurisé, du moins qui se veut sécurisé.
Et donc du coup, s'il n'est pas installé, vous votez pas. ça va aussi des bugs avec Firefox. Apparemment, la plateforme marche très mal sur Firefox. Donc peut-être qu'il faut utiliser Internet Explorer.
Voilà. Génial.
Voilà. Et je vous passe aussi peut-être que la société espagnole qui a créé le produit et qui stocke les votes en Espagne. Hein, donc faut le dire quand même. Hein, on est même plus.
C'est vrai qu'en France, on ne sait pas.
Faire de scrutin.
On ne sait pas.
Toute une série de problèmes. À mon avis, les députés des Français étrangers sont pas élus parce que avec le nombre de
d'irrégularités.
Voilà, d'irrégularités qu'il va y avoir, on va pouvoir faire sauter une paire d'élections, je pense. Voilà. C'est pour la page élection.
Génial.
Les technologies et la politique, c'est pas encore gagné.
Non, c'est pas gagné, non. On continue avec Roland Garros. J'en sens un qui est content là.
Ah là là, pendant deux semaines, je vais rester scotché sur mon écran. Là.
Donc voilà, sache que si tu regardes Roland Garros, IBM va t'épier pendant Roland Garros.
Cool.
En fait, chaque année, IBM utilise Roland Garros pour lancer quelques nouvelles technologies. Et en fait, cette année, ils vont lancer ce qu'ils ont appelé le Social Sentiment Index. Donc en fait, ça consistera à relever les sentiments des gens sur les réseaux sociaux.
Ah, oui.
Tout en direct en fait pendant Roland Garros. Donc ils vont épier en fait les échanges sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, et j'en passe. Et leur logiciel va analyser tout ça pour faire ressentir un peu comment les gens voient Roland Garros. Donc qu'est-ce qu'ils pensent de l'affiche, qu'est-ce qu'ils pensent du terrain, qu'est-ce qu'ils pensent des demoiselles qui ramassent les balles.
Adapte peut-être leur publicité au sentiment du spectateur.
Pourquoi pas, ouais. Si ça marche, ça pourrait être...
Si t'es un Français à finale, t'auras que les pubs de champagne et tout.
Donc, et des mouchoirs, si c'est un huitième de finale des derniers Français.
Ouais,
un Français qui gagne, Thibaut.
On
reste sérieux.
Bah, il faut toujours espérer.
Il y en a 32 de sélectionnés, c'est ça, non?
Déjà qu'il y en a mon fils qui a abandonné là.
Donc en fait, sur place, IBM va installer un stand où on découvrira en fait justement en temps réel le ressentiment des spectateurs. Et on aura la liste aussi des joueurs les plus commentés.
Un petit aparté avec Roland Garros, c'est pour dire que justement Babolat. Babolat, c'est le nom.
Bar chocolaté.
C'est donc le nom d'un constructeur de raquettes. A lancé cette année à Roland Garros un genre de petit détecteur qui est placé dans la raquette.
J'ai peur après les spectateurs.
Voilà, c'est même les joueurs maintenant. C'est un petit détecteur qui est placé dans la raquette et qui va donc disséquer tous les coups de raquette que va faire le joueur. Donc coup droit slicé, revers, lob, etc. Smash, la force à laquelle il ou elle tape la balle. Ce détecteur va bientôt arriver sur le marché. Le prix n'a pas été encore communiqué, mais à mon avis, ça va coûter pas mal. Parce que bon, c'est quand même un système en fait qui permet, avec une clé USB à côté aussi, justement, on récupère ce petit truc, ce petit détecteur avec une clé USB. On le met donc sur son ordi et on peut analyser toutes ces.
Enfin!
Voilà,
enfin.
Toutes ces données avec des camemberts,
des stats à gogo,
voilà.
Okay. Et si tu casses ta raquette, t'as des points, non?
T'as des points, ouais. Alors si tu vises un arbitre aussi, t'as 30 points en plus.
Ouais, c'est pas mal. Vitesse d'impact.
Exact. Alors si c'est dans la tête ou dans l'œil, ou dans l'oreille.
Voilà. T'as même des stats sur ça, c'est bien.
Exact.
Ça,
ouais. Et bientôt les lunettes de réalité augmentée pour tenir le joueur au courant pendant le match. Ces stats. Hein.
Voilà, ouais.
Et avec la transpiration, on pourra pas savoir le dopage, tu sais, comme le PO, non? Y a pas ça?
Voilà, bon. Notre monde est entouré de capteurs.
Voilà. Le sport à l'ancienne, c'est fini.
On continue, on va reparler de Facebook.
Ah.
Voilà. Donc la semaine dernière, on vous parlait un petit peu de l'entrée en bourse ratée de Facebook.
Mariage réussi.
Mariage réussi. Voilà, donc le gendarme des marchés américains, donc la société qui surveille les marchés boursiers américains, a ouvert une enquête sur l'action Facebook.
Sur son introduction. Ouais.
Voilà, sur son introduction, et a remarqué que les banques avaient peut-être un petit peu surenchéri la faculté qu'avait cette action à s'envoler pour vendre plus facilement les...
Ils ont fait du fric au passage.
Ouais, voilà, un petit peu de mensonge pour faire du fric. Et puis, une mauvaise nouvelle quand même, c'est que Mark Zuckerberg, qui n'est plus patron chez lui, risque de perdre sa place. Donc, mariage réussi, mais Voilà. Il va partir avec un beau pactole peut-être. Mais
mariage réussi, mais divorce après.
Voilà. À voir, à voir.
À suivre.
Ouais, ouais, ouais.
Puisqu'on a parlé de sport, on va parler des Jeux Olympiques.
Ah, du tout, quand même.
Et je vais vous parler en fait du prix Abusip. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est le prix Abusip ?
Non.
Prix Abusip. Abu Ghraib ? Non. Non.
Abusif.
Abusip est le prix décerné en fait à des sociétés qui ont utilisé des moyens pas très sympas contre la liberté d'expression.
Ah. Voilà,
pour faire taire des gens qui disent des choses sur votre société, par exemple. Donc ça vous plaît pas trop. Et en fait, donc il a été remis aux Jeux Olympiques de Londres qui ont utilisé Twitter pour faire fermer un compte Twitter à des opposants. Voilà, il faut savoir qu'à Londres, il y a une structure qui s'est montée, les opposants officiels aux Jeux Olympiques de Londres, et qui manifeste et qui avait ouvert un compte Twitter donc pour recruter. Et donc, les Jeux Olympiques de Londres a fait fermer ce compte. Donc, on va mettre un carton rouge aux Jeux Olympiques de Londres.
Comment on fait
et à
pour
Twitter.
Comment on fait pour
On signale à Twitter.
Voilà,
le
en fait,
contenu,
ouais. Ils ont signalé à Twitter une violation de la propriété. Voilà, parce qu'en fait, ils ont déposé les Jeux Olympiques de Londres.
Ouais.
Comme la structure s'était appelée les opposants officiels des Jeux Olympiques de Londres.
Vous avez pas le droit.
Du coup, ils ont utilisé ça pour faire fermer le compte Twitter.
Ça me fait penser que, toujours dans Facebook et ça, c'est Facebook qui a perdu un procès contre un site pornographique qui voulait s'appeler un peu comme Facebook, mais pas tout à fait. Et ils ont été déboutés de leur plainte. C'est Facebook, mais voilà, un peu version porno.
On continue avec Adopi.
Ah,
ça faisait longtemps.
Voilà, donc on avait expliqué la semaine dernière que le gouvernement était en train de revenir en fait sur l'Adopi. Donc ils ont monté une, je sais plus comment on appelle ça,
une petite commission,
ouais, voilà, pour
présidée par Pierre Lescure.
Voilà, pour réétudier en fait Adopi. Donc ça avance tout doucement. Alors Adopi ne sera pas abandonné, mais il sera revu. Donc il faut voir comment ils s'y prennent. Et donc du coup ils vont peut-être abandonner la coupure internet. Elle a remplacé par une limitation du débit.
Enfin, si t'habites comme chez moi où t'as à peine 100K, la limitation du débit elle y est déjà.
Et ben, t'auras que 10K, voilà.
Voilà. Bienvenue à l'âge de glace.
D'autres actualités peut-être ?
Ouais, plein. Thibaut ?
Oui, tout à fait.
Allez.
Avec Diablo.
Ah.
Diablo 3, la sortie de Diablo 3 qui était donc il y a...
C'est un nouveau cocktail, c'est ça ?
Voilà, ouais. Qui était donc il y a deux semaines.
Tu as acheté Diablo 3 ?
Non, je n'ai pas acheté Diablo 3.
Ah.
Je ne fais pas partie de ces 6,7 millions de personnes qui l'ont acheté à 24 heures après sa sortie. Ce qui a fait le jeu de PC le plus acheté de tous les temps, qui explose le précédent record détenu par la dernière extension de Warcraft, Cataclysm.
Ah, ouais. Ah oui. Quel prix ?
Ouais, c'est ce que j'ai demandé. 6,7 millions fois combien ?
Voilà, alors il y a deux prix. Il y a deux prix.
Ah.
L'édition collector, c'est à 69,99€. Et l'édition basique est à 49,50€.
50€ le boîtier.
Plus de 300 millions de dollars. Facile.
Voilà.
Même pas loin de 400.
Ils étaient à peu près, le jour de la sortie, à peu près 3000 à la Fnac des Champs-Élysées de Paris à attendre depuis 5-6 heures pour avoir une dédicace des. Deux développeurs du jeu quoi.
Et combien de sextoys distribués?
C'est vrai.
Ce serait bon à savoir.
Voilà, et donc actualité qui est liée à ça, on a retrouvé en Allemagne une personne qui était décédée. Elle a été retrouvée donc morte soi-disant après une crise cardiaque après avoir joué 72 heures d'affilée à Diablo 3. Donc après voilà, à savoir si c'est s'il y a un lien concret avec ça, mais toujours est-il qu'il faut toujours apprécier avec modération les jeux et faire des pauses régulières.
Après 2 heures ça
compte. Mais j'étais un peu nul pour jouer 72 heures à Diablo 3, ça se termine en beaucoup moins de temps que ça normalement, non ?
Il y a plein de
il y a plein de modes,
t'as plusieurs niveaux en fait.
De difficultés, etc. Ouais. Ouais.
Donc il faudrait quand même marquer sur le boîtier que jouer à plus de 72 heures de Diablo 3 peut être dangereux à la santé, je pense.
Voilà.
Mais c'est marqué même les crises d'épilepsie.
Oui. Mais bon, apparemment, voilà, ils s'en foutent un peu. Quoi. 72 heures, c'est juste.
Ouais, mais bon, un mort sur 6 millions, c'est une bonne stat, hein. T'as des produits, ils font plus de morts que ça. Hein.
Ah oui, c'est sûr. c'est vrai.
La mauvaise foi.
Voilà, c'est tout. Pour moi. Donc,
WikiLeaks qui lance son petit réseau social.
Ah, après Microsoft.
Voilà. En fait, c'est pas tout à fait un petit réseau social. Pour l'instant, c'est les amis de WikiLeaks, en fait. Et ce sera plutôt un partage d'informations. Pour en fait sécuriser les informations qui seront sur des serveurs hébergés à l'étranger, mais aussi être en fait une forme de collectivement, quoi. C'est-à-dire que l'union fait la force. Ils s'étaient retrouvés un petit peu tout seuls lors des événements, lorsqu'on leur avait supprimé leur compte Mastercard. Là, ça sera plutôt, ils espèrent plusieurs dizaines de milliers de personnes, en fait, pour pouvoir être une force d'opposition et de contestation. Donc, si vous supportez Wikileaks, vous pouvez aller sur, vous tapez FOWL dans le moteur de recherche et vous accéderez au réseau social qui est ouvert à l'heure actuelle sur, pour Wikileaks. À notre actualité, j'ai Seagate qui rachète, là, on va parler de matos, d'hardware, la scie. Est-ce que vous connaissez la scie ?
Le chien.
Voilà.
C'est
pas
ça
que le chien. Ceux qui aiment les beaux objets, il y a la scie qui est un vendeur de disques durs, de stockage.
Qui fait des très très beaux disques durs.
Voilà, tout blanc, tout noir, wow. Carré, rectangulaire.
Tu l'écris comment ?
Bien
designé. L-A-C-I-E. Donc la scie en fait qui s'est fait racheter par Seagate pour 186 millions de dollars. Voir que Seagate est dans une phase d'achat assez compulsive puisqu'ils ont racheté la division, on en avait parlé, la division disque dur de Samsung pour 1,4 milliard de dollars. Donc là, c'est un fabricant français de disque dur qui s'est racheté. Ils font des très bons disques durs.
Lâcher Seagate dans un magasin de fabricants de disques durs et là, c'est l'achat compulsif ou pas?
Totalement. Alors, on continue avec Windows 8. Alors Windows 8, vous savez pourquoi 8?
Bah, parce qu'il y a eu 7 avant.
Pas mal, mais notre raison marketing, pourquoi tu vas retenir 8?
Moi je sais.
Ouais.
Parce que peut-être ça sera bootable en 8 secondes,
n'est-ce pas? Voilà, alors bootable, voilà. C'est pour les pédagogies, c'est-à-dire qu'on peut le démarrer en 8 secondes.
D'accord.
Mais le problème, c'est que 8 secondes, c'est qu'il y en a beaucoup. Mais en fait, parfois on appuie sur la touche F8 pour paramétrer sur quel système d'exploitation on veut démarrer son ordinateur. Ou même sur une clé USB, on peut démarrer son ordinateur sur une clé USB aussi. C'est un système d'exploitation qui est stocké sur une clé USB. Et donc ça allait trop vite. En fait, ils se sont rendu compte que tu avais 200 millisecondes pour appuyer sur F8. Problème. Beaucoup de gens n'y arrivent pas.
200 millisecondes.
Voilà.
Tu spams la touche F8.
Voilà. Il y en a beaucoup qui mettent 2 secondes déjà pour arriver sur F8. Donc,
ou CF8.
Donc les ingénieurs de.
D'un autre côté, pour Windows, ça boot rapidement le premier jour de l'install. Quoi. Après, c'est mort. Quoi.
Non.
À la première mise à jour, à la première installation. Voilà.
Après, ça fait 8 secondes, 5, 9, 10, puis après 2 minutes.
Donc voilà, ils sont en train, les développeurs de Windows 8, de travailler sur le fait qu'on ait un peu plus de temps pour appuyer sur la touche F8 qui permet donc de sélectionner le système d'exploitation, entre autres.
De toute façon, Windows 8, c'est conçu pour les écrans tactiles, donc il n'y a plus de touche F8, quoi.
Oui. En plus, il devrait y avoir une version qui devrait sortir au mois de juin, et après au mois d'octobre. Et après, mon petit coup de cœur de cette semaine, c'est Leap Motion.
J'ai vu ça, moi aussi.
Ah,
super.
Alors, c'est génial. C'est Minority Report, ouais, ouais. Chez toi.
Ouais, ça fait rêver.
Pour pas cher. Alors, pour ceux qui connaissent, ça se rapporte un petit peu à Kinect. Kinect, c'est un système de 3D, en fait, où on n'a plus besoin de manette. On interagit directement avec l'écran.
Avec une caméra.
Voilà, il y a une petite caméra.
À la base, qui était fournie avec la Xbox, quoi.
Et voilà, oui. Plus 150 $.
Ouais, voilà. Fournie. Moyen d'influence.
Il y avait un système aussi d'open source, voilà. Où on pouvait travailler, rajouter. Là, donc, des gens ont créé, donc, un petit boîtier.
Il est plus petit que le Kinect, d'ailleurs, voilà. Le boîtier.
Plus petit, 200 fois plus précis et 2 fois moins cher.
Ouais, il y a des vidéos sur internet, si vous cherchez, vous allez trouver, c'est impressionnant. Je ne sais pas si c'est trafiqué ou quoi.
Non, j'ai vu notre vidéo et on la mettra.
Ah, c'est génial.
Donc en gros, c'est un système qui peut distinguer les mouvements individuels des doigts, on peut tracer des gestes avec une précision allant jusqu'au centième de millimètre.
Ouais, ça fait pas que le mouvement de la main ou d'un doigt, c'est les différents doigts peuvent agir. Ouais. Enfin, c'est impressionnant à voir.
Ah, c'est magique. En plus, donc c'est en 3 dimensions et on peut jouer à plein de jeux. J'ai vu Angry Bird avec des baguettes, tu peux jouer comme ça.
Ouais.
Google Maps, tu tires. C'est vraiment Minority Report chez toi. Quoi.
J'ai vu au salon des nouvelles technologies à Toulouse là créations. Ouais. Non, c'était en 2011, je crois. Des créations artistiques avec des Kinect qui étaient vraiment sympas. Donc ça promet peut-être des belles choses.
Ah, totalement. Donc je pense que la cyberbase risque sans doute très prochainement de s'équiper là-dessus de petits motion boîtiers.
Non, mais en plus c'est pas très cher, je m'en rappelle plus.
Non, c'est pas 70 $, ouais, c'est ça. Au cours de l'action, c'est 55 €, quoi.
Voilà.
Mais
libre à la fin de l'année et c'est vraiment magique.
Mais dernière petite actu avant de vous quitter. Google a déclaré supprimer à peu près 1 million d'URL par mois. Donc la plupart du temps suite à des problèmes de droits d'auteur. Voilà, c'était le chiffre de la semaine. Donc il y a 1 million d'URL par mois qui...
Les URL, c'est les sites internet.
Voilà, c'est des adresses qui permettent...
Donc ils ont ouvert une page.
Ça marche bien la page, quoi.
Le cercle des sites disparus.
Voilà, ils ont ouvert une...
Oh, c'est beau, ça.
Mon capitaine.
Ils ont ouvert une page qui s'appelle Transparency Report.
Après Minority.
Voilà. Où en fait, ils recensent toutes les demandes de suppression de pages et tout ça. Et il recense aussi les pays en fonction.
Il y a des stats par pays, ouais.
Voilà.
Ah bah en Chine, en Syrie, en Russie, ça doit pas mal sauter, non?
Exactement.
C'est dans en France aussi, remarque.
Ouais, c'est dans un souci de transparence. Et il y a aussi les temps d'accès à Google depuis ces différents pays. Donc on peut remarquer, en fait, dans certains pays, quand Google est coupé et tout ça.
Filtré.
Voilà.
Ah ouais.
Donc. Vous pouvez rechercher sur Google Transparency Report et vous aurez pas mal d'informations assez sympathiques sur le fonctionnement de Google.
Des liens qui seront mis sur la page Facebook.
Voilà.
Je pense que vous souhaitez voilà.
Page Facebook.
Oui, en parlant de la page Facebook.
Voilà, tout à fait. Mais alors, on est à 59 fans. Ouais,
59, mais attends, 59, ça me dit quelque chose. C'était déjà le chiffre la semaine dernière.
Oui, malheureusement.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais
rien, c'est ça.
Voilà, mobilisez-vous.
Bah oui.
Pourtant, voilà. On a bossé plein de trucs cette semaine que je ne comprends pas.
Bon, je vais vous filer un coup de main.
Voilà. Ah, merci.
Ce sera le 60e.
Je suis déjà.
Oui, tu es déjà. Ah, ouais. Bon. Non, mais on va. J'espère, je sais pas, je vais peut-être lancer un sondage sur la. Tu sais, des petits sondages sur la high-tech, voir vous préférez ça ou ça pour faire.
Parce que moi, j'ai tous mes amis déjà, les gars. J'ai
invité d'autres. D'accord. Il faut faire un sitting sur la place d'armes.
Voilà, ouais. Voilà.
Enfin, un flash mob.
Voilà. Allez,
flash mob. On va mettre un QR code sur la vitre de CFM.
Ouais, mais moi j'ai 200 amis qui y sont pas encore, donc peut-être.
Tiens, t'as des amis.
Bonjour les amis.
Voilà. donc voilà.
Bon.
Pour la page Facebook.
Pas mal d'actualité. Autre.
Non.
Un petit CD.
Oui, voilà, un petit CD.
Un petit CD local.
Voilà, un petit CD local. Deuxième musique avec Crazy Annie de Rick Presley.
Voilà, donc on
tu redis-le parce que j'ai rien compris.
Crazy Annie de Rick Presley.
Ok.
Voilà, donc on se fait une pause là-dessus et on se retrouve donc dans un instant où on va recevoir Monique Herman-Bultel, donc candidate du Parti Socialiste aux élections législatives.
2012.
Voilà, 2012 de l'Aveyron, qui va nous présenter son programme donc sur les nouvelles technologies. À tout de suite en CFM.
She moves, 'cause I wanna flow. She let you know what a bud is for. One look, you've got to know. She's got it in all. Long time when she danced for me. She like a fool to plan to see. What you want when I had it for free. Before the fall.
Les souris ne mordent pas, l'émission qui vous parle des nouvelles technologies en CFM.
Et cette semaine, donc, pour une émission un peu spéciale, on accueille Madame Monique Bultel-Herman, donc candidate aux législatives, donc sur la première circonscription de l'Aveyron. Et donc, vous êtes venue nous parler de votre programme sur les nouvelles technologies. Bonjour.
Bonjour. Eh bien oui, je suis venue vous parler ce matin à votre invitation des nouvelles technologies et en tous les cas du programme et du projet de François Hollande pour ces nouvelles technologies. Alors, je crois qu'il faut se poser les bonnes questions quand on parle de nouvelles technologies parce qu'il faut bien savoir qu'en l'état des infrastructures, le sujet est bien souvent abscon pour beaucoup d'Aveyronnaises et d'Aveyronnais. Pourquoi ? Parce que la fracture numérique frappe le département de l'Aveyron comme beaucoup de départements ruraux de plein fouet, tout simplement parce que les infrastructures ne sont pas au rendez-vous des besoins des populations.
Madame Bultel-Hermand, qui est, on le rappelle, candidate PS, on peut
oui.
le dire.
Tout à fait, hein? Vous pouvez le dire et le rappeler parce qu'effectivement, je suis même la seule candidate représentant François Hollande sur cette circonscription.
Voilà, vous faites bien de le souligner. Monique, si je peux me permettre une petite question, parce qu'on parle de nouvelles technologies, on va partir dans des trucs compliqués, voilà. Très simplement, alors déjà, vous avez à titre personnel une connexion Internet?
Oui.
Vous allez souvent sur le web, vous l'utilisez comment ?
Tout à fait, à titre personnel, je me connecte à peu près 3 fois par jour et à la maison, on est au moins 3 à se connecter souvent.
Et alors quand vous connectez chez vous, devant votre petit ordinateur, vous vous connectez pourquoi ?
Je me connecte souvent et essentiellement pour obtenir des informations sur des sujets dont j'ai envie d'approfondir les connaissances.
Deuxième question, niveau matériel. On parle aussi ici beaucoup des téléphones portables, puis maintenant les smartphones, où on peut en même temps rester connecté. Enfin, moi, j'ai encore pas tout bien compris. Vous en êtes où ? Vous avez quoi comme téléphone ?
La totale, on va dire.
Ah bon, d'accord.
Tout à fait, oui. J'ai effectivement, eh bien, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, j'ai l'iPhone et BlackBerry, donc j'ai effectivement plus de technologies. voilà. Mais oui, c'est-à-dire que je travaille beaucoup. C'est quand même, je pense, une de mes marques de fabrique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très compliqué quand on est à distance, souvent, soit de son lieu de travail, soit son lieu de décision, d'être privé de ses outils de communication.
Donc pour vous, les nouvelles technologies, c'est pas du gadget. Ça améliore votre productivité. Enfin, ça fait partie de votre façon de fonctionner maintenant.
Je pense que ça améliore ma productivité, entre guillemets, mais en tout cas, ça améliore la capacité que j'ai à faire ce que je fais et professionnellement et dans mon engagement public. Effectivement, je ne vais jamais sur un ordinateur pour jouer.
C'est donc on parle beaucoup de Facebook depuis longtemps, mais notamment ces derniers jours avec l'introduction en bourse, je pense à ça. Excusez-moi, vous avez une page Facebook ?
Oui.
Ah bon, d'accord. bravo, depuis longtemps ?
Ah oui, ça fait quelque temps oui que d'accord. J'ai une page Facebook.
Et c'est une page Facebook personnelle ou vous en avez aussi ouverte une avec les élections législatives en tant que candidate ?
Ben vous savez, non, c'est ma page Facebook personnelle. Mais vous savez, je crois quand on prend la décision de s'engager dans la vie publique, l'engagement, il n'est pas de 8h à 19h. Il est total, il est 24h sur 24 et surtout dans ces périodes-là. Mais bien évidemment, oui, mon engagement, il est total. Donc il y a peu de distinction entre ma page Facebook perso et mon engagement politique, oui.
D'accord.
Donc vous allez dans un premier temps nous parler donc de votre programme donc sur les nouvelles technologies, puis après on se fera une petite pause en musique et ensuite on vous posera donc quelques questions sur les sujets que nous on voudrait aborder donc avec vous.
D'accord.
Donc on vous laisse la parole.
Alors l'engagement qu'on a pris nous c'est de mettre du très haut débit sur le territoire d'ici 10 ans. Ça c'est un engagement, je dirais c'est notre pied de page. Après la page elle reste à écrire parce que après il faut savoir quel financement, quelle technologie et surtout quelles relations nous aurons et quelles relations l'État peut avoir et les collectivités peuvent avoir avec les opérateurs. La clé de la réussite, elle est là. Moi, je prêche personnellement et je crois que, notamment au sein de l'AVICA, une association dont je fais partie aux côtés du sénateur Yves Rome, nous prêchons pour un plan comme on les faisait quand on a mis du téléphone ou de l'électricité à disposition de chacun de nos concitoyens. Parce que pour résoudre cette fracture numérique, il faudra être énergique. Et on ne peut en aucun cas laisser les infrastructures se disséminer un peu au gré, soit des opérateurs, soit des collectivités. D'abord, c'est une charge très importante pour les collectivités et parfois beaucoup trop importante. Et ensuite, pour les opérateurs, la question n'est pas d'aménager le territoire, mais bien d'obtenir de la rentabilité. C'est factuel, ça, hein, c'est pas polémique, faits, les faits sont là. Les opérateurs privés ne sont pas là pour aménager le territoire, ils sont là pour effectivement faire du business. D'ailleurs, on le voit avec l'introduction de Facebook, notamment, qui n'est pas un opérateur, mais qui est un grand acteur de la vie numérique. Donc, moi, je prêche pour du FTTH pour tout le monde. Et effectivement, je crois que ça vaudrait la création d'un secrétariat d'État à l'aménagement numérique pour que l'État, effectivement, prenne sa part en termes de planification, en termes d'organisation des infrastructures. Moi, je pense que les infrastructures doivent être publiques et que nous devons organiser la concurrence avec les privés sur les services et pas sur les infrastructures. Voilà un petit peu résumé à la fois la position du gouvernement qui vient de s'installer et à la fois, et en tous les cas, des années qui viennent et du travail que nous aurons à faire. Et mon petit point plus personnel et plus particulier sur ce dossier que vraiment je travaille depuis de longues années, donc au sein de plusieurs organisations nationales.
Se mise à disposition du très haut débit, c'est ça ?
Oui.
Hein, très haut débit. Donc, ça serait dans le cadre d'un texte qui national et
oui.
dont bénéficierait l'Aveyron.
Tout à fait. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, le financement, il est à la fois public et les opérateurs sur des zones qu'on détermine comme étant ou qu'on définit comme étant des zones amies. Le vocable est sympathique, mais en fait, la réalité est moins puisque les zones amies ne bénéficient pas des financements publics d'État. Donc, on avait un grand emprunt, donc une bonne idée au départ, qui devait notamment servir aux collectivités pour émarger et pour construire leur mise à disposition de très haut débit pour les populations. Et puis, en fait, tout ça s'est dégonflé comme un ballon de baudruche. Et à l'arrivée, eh bien, le résultat n'y est pas, le compte n'y est pas. Il faut savoir quand même que pour mettre du FTTH, la fibre à la maison, en fait, hein, pour tous dans l'Aveyron, il faudrait 300 millions d'euros. C'est une année de budget du Conseil général. Donc, il est bien évident que à la fois, on doit trouver des financements pour mettre le très haut débit à disposition de tous nos concitoyens et en même temps savoir qui va payer. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui, grâce à des investissements publics, font beaucoup de bénéfices. Donc effectivement, je pense que ces gens-là, ces opérateurs, doivent participer au financement de l'aménagement numérique du territoire et doivent aider, dans la mesure où ils font des bénéfices sur des zones très denses, eh bien aider à résoudre la fracture numérique qui pénalise tant nos concitoyens et notamment sur les territoires ruraux comme l'Aveyron.
Pour rappel rapide, donc le très haut débit, qui est la fibre, qui se déploie depuis un an maintenant, petit à petit dans des très grandes villes, donc d'ici 10 ans sur tout le territoire.
C'est à la fois une grande ambition et une immense et une impérieuse nécessité. Il faut considérer que le très haut débit a des, vous le savez bien ici, des déclinaisons dans tous les domaines. L'éducation, bien sûr, mais aussi la santé, aussi le maintien à domicile, aussi l'industrie et l'économie, bien évidemment. Une entreprise pour pouvoir se développer à son aise, faire de l'exportation et se mettre au niveau de la mondialisation, eh bien, elle doit avoir à sa disposition des outils numériques et surtout des infrastructures numériques puissantes.
Ces nouvelles technologies, ce numérique, ça a quelle importance pour vous dans le cadre d'une vision complète d'un mandat de député sur 5 ans, ça a quelle place ces sujets-là ?
Ça a une place très importante. Lorsque j'ai rencontré les acteurs locaux et les élus locaux sur la circonscription, j'ai pu vraiment mesurer l'importance que ça avait, notamment pour eux dans les territoires. C'est encore une fois la clé du développement économique, c'est la clé de la préservation des populations sur les territoires ruraux, et c'est la clé également, je pense, en tous les cas, c'est une des clés du maintien à domicile, notamment pour les personnes âgées.
Vous parliez tout à l'heure d'un secrétariat d'État chargé au...
développement et à l'aménagement numérique du territoire.
Voilà, donc ça serait après les élections législatives.
Ah, écoutez, là, en ce qui me concerne, moi j'œuvre pour ça. Aujourd'hui, il n'est pas d'actualité.
Ouais.
Néanmoins, moi je pense que cet enjeu-là mériterait ça. Et voilà, il va y avoir des élections législatives. Moi, je vais œuvrer pour ça. Je sais que j'œuvre aux côtés et au sein d'organisations nationales qui regroupent beaucoup de collectivités, et notamment donc avec le président de la VICA, qui est le sénateur Yves Rome, et qui effectivement est dans cette optique-là. Parce que, encore une fois, je pense qu'il faut aider les collectivités locales à pouvoir organiser cet aménagement, comme nous avons en son temps organisé l'aménagement électrique, l'aménagement du téléphone, les réseaux d'eau, etc. Ça va devenir, je le pense, et c'est aussi important parce qu'il ne veut pas falloir laisser se développer n'importe quelle technologie également. Je pense que la fibre est une technologie d'avenir qui qui est pérenne. Lorsqu'elle est installée, elle est pérenne, elle va durer dans le temps et elle permet un tel débit qu'on peut imaginer aujourd'hui avoir un petit peu de temps devant nous avant que la technologie n'évolue à ce point qu'elle ne soit plus valable, cette fibre. Donc je crois que c'est vraiment très important. Et pour ces raisons-là, je crois qu'il est important que ce soit l'État qui viennent en aide aux collectivités. C'est le cas aujourd'hui, mais pas de la manière suffisamment organisée pour permettre un très bon résultat sur le terrain.
Une petite question, parce que là on vient donc d'assister à nomination d'un nouveau gouvernement. Et alors, vous évoquiez un secrétaire d'État chargé au numérique. Alors là, il y a actuellement une ministre qui est notamment dans ses fonctions déléguée au numérique. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça fait ? Alors moi, je vous demande vraiment, on n'y connaissant rien. C'est quoi la différence d'avoir dans son intitulé ce dossier numérique et d'avoir, ou alors d'avoir, comme vous le souhaiteriez, un secrétariat d'État chargé de ces choses-là?
Parce que à partir du moment où c'est dans la définition et dans le titre, c'est une bonne chose. On peut considérer qu'effectivement ce sera considéré dans l'action du ministère. Je pense que c'est un enjeu tel qu'il va falloir mettre en place une structure conséquente. Voilà. Je pense que c'est un enjeu pour toutes les collectivités locales, c'est un enjeu pour toute la population française, c'est un enjeu tel qu'il va falloir effectivement se donner les moyens.
Et aujourd'hui, donc on prédit une gouvernance très difficile pour François Hollande avec des comptes qu'on dit vraiment dans le rouge. Et donc vous pensez que ce sera une priorité Comment vous allez faire pour que ça devienne une priorité économique ou que ça se développe hein?
Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs. Vous allez dans une grande ville à Toulouse, il n'y a aucun problème pour aménager de la fibre. Vous avez un pied d'immeuble et vous avez 4 fibres. Tous les opérateurs ont leurs fibres. Ces opérateurs-là bénéficient aussi des aménagements qui ont été payés par les collectivités locales dans d'autres secteurs. Donc ils ont une rentabilité sur leurs infrastructures et sur les services qu'ils vendent. On doit pouvoir, à un moment donné, y compris pour leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, puisqu'ils auront la possibilité de vendre leurs services après. C'est-à-dire la concurrence va s'organiser sur les services. Mais il faut qu'ils participent. Et ils ont les moyens de participer à la mise en œuvre des infrastructures. De toute façon, peu ou prou, ils y participent par les impôts qu'ils payent, et nous aussi, autour de la table.
On va passer à notre pause. Enfin, voilà. C'est pas vraiment une pause. C'est le choix de Monique Bultel-Hermand, notre invitée aujourd'hui, dans les souris de mort de part. Et c'est, d'ailleurs, on a dit quoi? Ah, moi, j'appuie sur les boutons, c'est tout. Voilà, Louride. Bravo. Et le titre, ça m'arrange
plus. Walk on the Wild Side.
Allez, on se retrouve tout de suite après en CFM.
Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Mm-hmm. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
De retour dans les souris ne mordent pas en CFM, donc toujours en présence de madame Monique Herman-Bultel, donc qui est venue nous parler de son programme. Donc on va voir quelques parties qui nous tiennent à cœur dans les souris ne mordent pas, dont on parle souvent. Et alors, je sais que c'est pas bien de taper sur les perdants, mais les cinq dernières années qui sont passées ont vu un certain nombre de lois et d'actions qui ont été un peu, qui sont pour nous vraiment néfastes pour le monde de l'internet et des nouvelles technologies. Donc j'aimerais bien qu'on en parle un peu aussi, parce que savoir si vous allez revenir dessus, si vous allez l'améliorer, tout ça. Donc on va commencer au niveau national par un projet qui a fait un peu aussi polémique dans le programme de François Hollande, qui est l'Adopi. Mmh. Puisque une fois il revenait dessus, une fois il revenait pas dessus, à la fin on savait plus trop ce qu'il voulait en faire. Donc pour vous, déjà, est-ce que l'Adopi c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que vous voulez en faire?
Alors je crois qu'on a un arsenal législatif qui est en train de s'adapter et qui s'adapte forcément aux événements. On est un peu en termes de législation à la remorque de l'innovation. Et c'est pas très surprenant. En revanche, pour ce qui est de la position, en tous les cas, des engagements de François Hollande durant la campagne, l'engagement numéro 45, c'est commence par ces mots. Je remplacerai la loi Adopi par une grande loi signant l'acte 2 de l'exception culturelle française qui conciliera la défense des droits des créateurs et un accès aux œuvres par Internet facilité et sécurisé. Ça dit en même temps toute la nécessité de légiférer, ça dit en même temps toute la difficulté de légiférer, qui raillait que l'on peut être entre effectivement le droit d'auteur, la légitime propriété d'une œuvre lorsqu'on la crée, et l'envie, la nécessité également pour les gens d'avoir accès à de l'information, à de la culture et à des œuvres. Voilà. J'essaye, hein, en tous les cas, de résumer la réalité. En tous les cas, les engagements de François Hollande sont clairs. Il remplacera la loi Adopi. Et voilà, on essayera de moderniser, d'adapter et de rendre justice aux deux parties, à l'auteur et à l'ambition de culture, d'envie de savoir, de connaître et d'apprendre qu'on doit mettre et que l'État, en tous les cas, doit mettre à disposition des Françaises et des Français.
D'accord. Mais alors vous, est-ce que vous êtes pour ou contre finalement laisser les gens télécharger librement et trouver un autre moyen de financer aujourd'hui la culture ou
Ça peut pas se raisonner en termes de est-ce que vous êtes pour ou contre. Moi, je suis pour que les gens puissent avoir accès à un maximum d'œuvres. Mais lorsque vous rentrez dans un musée, à l'exception faite des journées spécifiquement dédiées à ça et qui sont gratuites, ben vous payez à un moment donné pour rentrer dans un musée. Lorsque vous achetez un DVD, il y a effectivement des gens qui un CD, pardon. Vous avez des gens qui ont créé une œuvre et puis qui mérite rémunération sur l'œuvre. Après, il y a effectivement l'accès libre. On peut pas dire est-ce que vous êtes pour une catégorie ou pour l'autre. Je pense qu'il faut effectivement trouver des moyens, mais je pense qu'il faut d'abord trouver les moyens d'assurer une juste rémunération à la création, et après dire effectivement on va libérer l'accès dans certaines conditions. Pas l'inverse, parce qu'effectivement on peut comprendre facilement la frustration du créateur si on lui explique que d'abord il va donner son œuvre et puis après peut-être on trouvera les moyens de lui rémunérer son œuvre. Voilà. Donc il faut à la fois protéger, parce que il y aura plus de création s'il y a plus de rémunération de la création. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Il y a aussi nécessité de favoriser la création. Mais en même temps, il faut, et ça, c'est un engagement, je veux dire, l'émancipation de l'individu, l'accès à la culture, l'accès à la connaissance et l'accès au savoir. Internet et doit permettre d'augmenter ça. Mais, encore une fois, c'est un peu l'équation à résoudre, mais il faut pas la résoudre à l'un au détriment de l'autre, et il faut que les études faites qui attestent de telle ou telle chose soient extrêmement sérieuses, pérennes, continues, générales, enfin voilà, il faut... parce qu'effectivement, peut-être sur une catégorie d'âge, une catégorie d'œuvre musicale par exemple, on peut considérer que le téléchargement gratuit... engendre l'achat derrière, je suis pas certaine que ce soit valable pour tout, pour tous et tout le temps.
Et le Conseil numérique, vous en pensez quoi?
Alors, le Conseil numérique, c'était une instance mise en place. Moi, à mon avis, soit on met en place des choses qui ont les moyens de fonctionner, soit on met pas en place des choses en se disant ça va fonctionner sans donner les moyens. À ma connaissance, hein, alors j'ai peut-être pas, je suis peut-être pas au top de l'information, mais à ma connaissance, c'est un Conseil numérique qui a une mission, mais qui a pas vraiment les moyens de fonctionner. C'est un peu comme pour le plan. D'aménagement numérique du territoire. Je crois qu'à un moment donné, c'est pas la peine de créer des instances basées sur plus ou moins du bénévolat avec des moyens de fonctionner dérisoires. En tout cas, je pense que c'est pas à la hauteur de l'engagement et de la mission.
Sujet qui nous tient aussi à cœur dans cette émission, c'est l'open data.
Oui.
Donc le partage des ressources d'abord de l'administration sous format libre. Puissent être utilisées par les gens. Le gouvernement de François Hollande s'est positionné pour, puisqu'ils ont dès le début incité aussi les ministres actuellement en place à partager sur cet open data. On parle souvent de sites nosdéputés.fr qui partagent un peu le travail des parlementaires. On a vu que ça plaît à certains, que ça plaît moins à d'autres. Hein. Forcément, quand on se fait taper sur les doigts, ça nous plaît moins. Qu'est-ce que vous pensez de l'open data et de ce genre d'informations?
Ceux qui n'aiment pas ne pourront pas éternellement ramer contre l'évidence. L'évidence, c'est le partage de l'information. Et le partage de l'information publique, moi, je considère qu'elle est capitale. Nos concitoyens doivent pouvoir être informés des données, des décisions qui sont soi-disant publiques, mais qui en fait, si on y réfléchit bien, sont extrêmement compliquées à aller chercher. Donc je crois qu'effectivement, la transparence des informations, des décisions publiques doit être assurée, doit être garantie, ça devrait être une règle. Moi je suis à fond pour, et je crois que lorsque l'on se présente à des élections, notamment, et qu'on veut assumer des responsabilités, et notamment en tant que député, moi je m'engage effectivement, si je suis élu, à assumer le fait que les gens, y compris me disent que ce que je fais, ça leur convient pas, parce que de la même manière, ils me diront aussi que ce que je fais, ça leur convient. Ça ne peut que encourager à l'action publique. Après, je pense que ceux qui sont contre ce genre de choses, ce sont ceux peut-être qui ne font pas ce qu'ils se sont engagés à faire.
D'accord. Et donc, pour l'open data, au niveau de l'Aveyron, on est un peu en retard, hein, parce qu'effectivement, aujourd'hui, un peu beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les communes ont besoin d'aide, peut-être, pour mettre en place? Qu'est-ce qu'au niveau législatif, au niveau national, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider les petites communes aussi à mettre ça en place, hein?
De toute façon, il est clair que depuis 5 voire 10 ans, les petites communes ont été abandonnées, pas que sur ces dossiers-là, hein, sur les dossiers d'aménagement du territoire, les dossiers d'urbanisme. Ils ont été coupés des services de l'État qui leur apportaient un grand secours. Je crois qu'effectivement, si on devait à charge pour chaque petite collectivité de l'Aveyron et sur notre circonscription, on devait leur laisser la charge donc de l'organisation de la mise à disposition des données publiques, ça serait compliqué. Puis en plus, ce serait pas une bonne idée non plus, parce que je pense que ce serait confus. Il faut organiser ça, permettre d'avoir des portails, les mettre à disposition des collectivités. Voilà, ça demande une ingénierie, mais qui ne me paraît pas impossible à fournir aux petites collectivités. Et ça, je pense que ça peut se faire assez rapidement. Il suffit de s'en donner les moyens. Et encore, sur ce dossier-là, je pense que les moyens requis ne sont pas... ça reste à porter, je pense.
Et donc, les licences libres. Alors, parce qu'on parle de liberté dans l'open data, Que pensez-vous des licences libres? Est-ce que ça doit être mis en place? Est-ce que ça doit être favorisé ou pas?
Bah écoutez, encore une fois, moi, c'est vrai que le corollaire de l'accès à Internet, c'est la liberté. Je trouve que c'est bien. Je trouve que ça a été le cas aussi, une époque où peut-être, en tous les cas, pour certains d'entre vous, vous vous souvenez plus, mais c'était les radios libres.
Oui.
Voilà. Donc, c'était, c'est une telle belle aventure, et au départ on ouvre la porte toute grande, et puis après les choses se régulent, alors effectivement il faut ouvrir la porte et après légiférer, mettre des outils pour que les choses de toute façon je pense que les choses se mettent en place, se régulent automatiquement, mais j'ai une, on va dire, une nostalgie effectivement des radios libres et des choses comme ça, et voilà, ça me rappelle une autre époque et voilà.
Les administrations aujourd'hui dépensent beaucoup d'argent dans l'achat de logiciels propriétaires qui versent à des grandes multinationales qui ne sont même pas en France pour la plupart. Est-ce que vous êtes pour un passage au logiciel libre dans les administrations? Est-ce que ça devrait être obligatoire? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Ben écoutez, je pense qu'aujourd'hui, déjà, il arrive dans certains endroits qu'on ait, alors je ne sais pas, on ne doit pas dire de nom, mais qu'on ait effectivement accès à des logiciels avec des licences libres. Hein.
Et au niveau Assemblée nationale et tout ça.
Là encore, il va falloir. Alors, on va dire, je vais pas faire de langue de bois. Vous parlez de concertation, mais je pense que voilà, je vais pas décider moi seul pour l'Assemblée nationale. Je suis un candidate aujourd'hui, mais je vous promets que si je suis élue, je reviens et on en parle et je vous dis effectivement ce qu'on en pense. Mais bon, voilà, moi je suis quand même pour ouvrir les portes.
Question suivante sur la loi Photoshop. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous la pose parce que c'était notre co-animateur qui est pas là, qui souhaitait absolument qu'elle soit posée aux candidats. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi qui impose en fait qu'on écrive sur les photos,
que
la loi a été retouchée ou pas?
Alors, je pense qu'il y a certaines photos où il faudrait une demi-page pour remplir les exigences de cette loi. Mais en même temps, je suis d'abord, je pense que dans certains domaines, et je pense notamment aux publicités incitatives de vêtements ou de marques d'alimentation destinées à perdre du poids, je pense qu'il faudrait effectivement préciser que les photos qu'on présente comme étant le résultat d'un long et périlleux régime, par exemple, sont retouchées. Voilà. Là, je pense qu'effectivement, il y va d'abord de la santé publique. Hein, donc, il y a des moments où je pense qu'il faudrait avoir recours à ça. Après, vous savez, quand vous achetez une boîte de gâteaux aujourd'hui, eh ben, on essaye d'exiger qu'il y ait marqué s'il y a du soja, s'il y a transgénique. On va même demander, et je pense que c'est une très bonne chose, le bilan carbone du produit que vous achetez. Je crois qu'effectivement, il faut être informé, il faut informer le consommateur et les gens. Les enfants sont particulièrement sensibles aux images et je crois qu'il est indispensable de leur faire comprendre que ce qu'ils voient parfois sur du papier glacé n'est pas du tout le reflet de la réalité. Et je crois que c'est très important. Ne serait-ce qu'en termes... Ils ont conscience du trucage des choses lorsqu'ils sont sur un ordinateur et qu'ils jouent à des jeux. Mais ils n'ont pas conscience du trucage des choses lorsqu'ils les voient imprimées sur du papier glacé. Je crois que c'est important, effectivement.
On va continuer alors sur un sujet un peu sensible qui est le fichage des personnes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec le numérique, on se donne beaucoup de liberté aussi pour enregistrer des données dans tous les sens. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela?
Écoutez, je pense que voilà, on atteint les limites de la liberté de l'un qui entame sur la liberté de l'autre, qui pénalise et qui peut obérer la liberté de l'autre, effectivement. Donc, je crois, moi j'ai eu affaire à cette problématique-là dans l'éducation, puisqu'effectivement il y a un fichier qui s'appelle le fichier base élève. Et je salue l'engagement et des syndicats, des organisations syndicales et des enseignants qui ont la communauté éducative dans son ensemble, qui a vraiment lutté pas à pas pour que ce fichier soit réduit au strict minimum en tous les cas, et je crois qu'il faut être extrêmement vigilant sur le fichage des gens, des données et surtout l'usage qu'on va en faire, parce qu'aujourd'hui je crois pas que qui que ce soit puisse garantir l'inviolabilité d'un fichier ou la sécurité des informations. Dans le même temps où je dis ça, il y a des fichiers qui sont nécessaires, il y a effectivement des, en tout cas peut-être, on va pas le dire en termes de fichiers, on va le dire en termes de rassemblement d'informations. Je crois qu'aujourd'hui, chacun s'accordera à dire que lorsqu'il y a un crime, un délit, et qu'on a une trace ADN et qu'on peut retrouver très facilement son auteur, parce que effectivement, on a réuni des informations concernant des délinquants ou des criminels, là, je pense qu'effectivement, le fichier En tout cas, le rassemblement de données est une bonne chose. Mais encore une fois, il faut être très vigilant parce que ça peut très vite déraper. Et je crois que les associations de consommateurs, les organisations syndicales sont vigilantes sur ces dossiers-là.
Alors, on a parlé dans la première partie du très haut débit partout. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de monde a du mal à s'équiper donc d'ordinateur. Mmh. Mettre le très haut débit partout, c'est bien, mais si les gens n'ont pas d'ordinateur, comment faire ?
Ça c'est sûr. Alors déjà il faudrait déjà qu'il y ait du très haut débit partout parce qu'il y a des gens qui encore une fois le problème d'avoir ou pas un ordinateur, ça leur paraît complètement superflu parce qu'effectivement ils ont du mal à avoir la télé et six chaînes. Donc voilà. Après je crois que au niveau de l'éducation et de la scolarité des enfants, on doit leur donner les moyens d'apprendre. Ça, c'est fait, puisqu'effectivement, dans chaque école de France, il y a un minimum de... En tous les cas, nous, on essaye de le faire partout, d'équipement. Après, je pense que ce serait bien que les étudiants, enfin les collégiens, les lycéens, les étudiants puissent accéder à un ordinateur à moindre frais. C'est fait dans beaucoup d'endroits. Il y a même des endroits où c'est les collégiens qui reçoivent un ordinateur. C'est mieux qu'un dictionnaire papier aujourd'hui. Pardon pour les dictionnaires papier, même si ça reste indispensable parce que c'est du pur plaisir de lire. Hein, mais il faut un ordinateur. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on va aider les gens à disposer d'un ordinateur. Parce que je ne crois pas que la solution soit que on donne de l'argent public à chacun pour acheter un ordinateur. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ce ne serait que, quelque part, donner directement de l'argent aux producteurs d'ordinateurs. Et ça, je ne crois pas que ce soit le rôle de l'État.
Alors, rapidement, pour finir, que pensez-vous des différentes lois qui, aujourd'hui, tentent, entre guillemets, de censurer Internet, hein, que ce soit SOPA, PIPA aux États-Unis, ACTA en Europe ou même LOOPSI en France, donc toutes ces lois là qui nous sont tombées dessus, qu'en penser et que peut-on faire ?
Alors, à qui profite le crime, on va dire, et pourquoi on fait ces lois et pourquoi ? Je crois qu'on l'appelle pas ACTA en France, on l'appelle ACAC, c'est ça ? Pour la protection commerciale.
Oui, c'est ça.
Voilà. Je crois qu'il faut légiférer. Je crois qu'il faut réviser l'arsenal législatif autour de cette problématique. Numérique, d'Internet, de la production, de la création. Et je crois qu'il faut impérativement qu'on remette sans arrêt. C'est des lois qu'on ne peut pas faire aujourd'hui qui seront valables demain parce que la technologie évolue, parce que aujourd'hui on ne sait pas ce qu'on va imaginer demain sur Internet. On ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire demain sur Internet. Donc il va falloir qu'on pose les lois aujourd'hui. Il n'est pas question de brider, il n'est pas question de censurer, il est question d'organiser. Parce qu'il y a aussi des choses sur Internet, c'est bien qu'on peut pas laisser faire. La cybercriminalité, elle existe. Il y a des choses qui existent, donc il faut quand même essayer de s'emparer de ces problèmes-là et de les régler. C'est le rôle du législateur en tous les cas.
D'accord. Merci, Madame Bultel-Armand, donc d'être venue nous voir.
Merci.
Et de nous avoir parlé de ce programme. On vous souhaite une bonne campagne, une bonne fin de campagne.
Merci.
Petite dernière question, tiens. Au second tour des élections présidentielles, vous avez attendu 20 heures pour avoir le résultat. Vous êtes allé vous balader sur Internet en Suisse ou en Belgique ?
Je ne suis pas allé me balader sur Internet en Suisse ou en Belgique. J'étais à la salle des fêtes de Rodez, présidente d'un bureau de vote, donc je ne suis pas allé de manière dynamique récolter des informations.
Ah voilà, de manière dynamique, okay, on a bien compris. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup.
Merci à vous.
CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. CFM.